Chapitre 5 Oberholzer 1 Susanna eut tout loisir d'observer au cours de cette longue et riche journée, car Roland lui en donna l'occasion, et parce qu'une fois passée les nausées matinales, elle se sentit de nouveau en pleine forme. Juste avant que Callahan et ses comparses n'arrivent, Roland lui murmura « Reste près de moi et ne prononce pas un mot, sauf si je t'y invite, et s'ils doivent te prendre pour ma siphine. » Qu'il en soit ainsi. En d'autres circonstances, elle aurait sans doute trouvé une répartie coquine à l'idée de passer pour la gentille petite maîtresse de Roland, sa petite bouillotte pour les froides nuits d'hiver, mais ce matin, ils étaient pris par le temps, et l'heure n'était pas à la plaisanterie, de toute évidence. L'air grave qu'arborait Roland ne lui laissait aucun doute, et puis, le rôle de femme de l'ombre, silencieuse et fidèle, l'attirait. N'importe quel rôle l'attirait, même enfant. Son plus grand bonheur était de faire semblant d'être quelqu'un d'autre. Ce qui explique sans doute tout ce qui t'est arrivé par la suite, chérie, se dit-elle. Susanna, fit Roland, tu m'entends?
Très bien, t'inquiète pas pour moi.
Si tout se passe comme je l'entends, ils te verront peu, mais tu les verras beaucoup. Susanna était une femme noire qui avait grandi dans l'Amérique du milieu du XXe siècle. Odetta avait applaudi les exploits de l'homme invisible de Ralph Ellison, se balançant dans son fauteuil comme une enfant visitée par la grâce. Aussi savait-elle exactement ce qu'il voulait. Et elle allait le lui donner. Une partie d'elle, cette méchante Detta Walker, qui en voudrait toujours à Roland pour cet ascendant qu'il avait sur son cœur et sur son esprit, mais pour l'essentiel, elle le voyait tel qu'il était, le dernier de son espèce, peut-être même un héros. 2. Pendant que Roland faisait les présentations, elle fut présentée en tout dernier, après Jake et même Otte, presque en passant. Susanna eut tout le temps de considérer combien elle se sentait mieux, maintenant que ses crampes d'estomac la laissaient tranquille. Bon sang, même cette migraine tenace avait disparu. Pourtant, cette saleté lui avait pourri la vie, parfois à l'arrière du crâne, ou passant d'une tempe à l'autre, ou bien juste au-dessus de l'œil gauche, comme si son orbite allait exploser, et cela depuis plus d'une semaine. Et puis, bien sûr, il y avait la comédie du matin. Elle se sentait nauséeuse avec les jambes en coton pendant une bonne heure. Elle n'avait jamais vomi, mais pendant cette première heure, elle était toujours à deux doigts. Elle n'était pas stupide au point de se méprendre sur des symptômes pareils, mais elle avait des raisons de croire qu'il ne voulait rien dire. Elle espérait juste qu'elle ne se retrouverait pas gonflée comme une baleine, comme cette amie de sa maman, Jessica. Non pas une, mais deux fois. Deux grossesses nerveuses, et pour chacune, on aurait dit qu'elle préparait des jumeaux, des triplés même. Mais il faut dire que Jessica Bessley avait cessé d'avoir ses règles, ce qui peut faire croire à une femme qu'elle est enceinte. Susanna savait qu'elle ne l'était pas pour une bonne et simple raison. Elle avait toujours ses règles. Elle avait commencé le jour même où il s'était réveillé de nouveau sur le sentier du rayon, laissant le palais vert à quelque 30 ou 40 kilomètres derrière eux. Et elle avait eu un autre cycle depuis. Les deux fois, les règles avaient été extrêmement abondantes et il lui avait fallu beaucoup de tissu pour absorber le flot brun, alors qu'avant cela, ses règles avaient toujours été légères, parfois même rien de plus que quelques gouttes que sa mère appelait « les roses d'âme ». Pourtant, elle ne se plaignait pas parce que, avant son arrivée dans ce monde, elle avait toujours souffert de règles douloureuses, voire insupportables. Les deux cycles qu'elle avait eus depuis le retour sur le sentier du rayon étaient passés sans aucune douleur. Sans ces chiffons imbibés qu'elle avait pris soin d'enterrer de part et d'autre du sentier, rien ne lui aurait indiqué que son corps marchait toujours. C'était peut-être dû à la pureté de l'eau. Bien sûr, elle savait à quoi tout ça rimait. Pas besoin d'être ingénieur en astrophysique, comme disait Eddie. Ses rêves fous et brouillés qu'elle ne se rappelait pas, les faiblesses et les nausées au réveil, les maux de tête, ses violentes crampes d'estomac, tout ça disait la même chose. Elle voulait un bébé de lui. Plus que tout au monde, elle voulait sentir grandir en elle le petit gars d'Eddie Dean. Ce qu'elle ne voulait pas, c'était faire la baleine avec une de ses grossesses nerveuses. Peu importe toutes ces histoires, se dit-elle en voyant approcher Callahan et sa bande. Pour l'instant, tu dois observer,
voir ce que Roland, Eddie et Jake ne verront pas. Comme ça, rien ne se perdra. Et elle sentit qu'elle pourrait faire ce travail à merveille. Vraiment, jamais de sa vie elle ne s'était sentie aussi bien. 3. Callahan s'avança en premier. Derrière lui venaient deux hommes, l'un âgé d'une trentaine d'années environ et l'autre qui parut le double à Suzanne. Il avait de grosses joues qui se transformèrent en bajoues dans les 5 ans à venir et des rides qui couraient des ailes du nez jusqu'au menton. Des rides « je veux » comme les aurait appelé son père. Et Dan Holmes savait de quoi il parlait en la matière. Le plus jeune portait un sombrero usé et le plus vieux un Stetson blanc immaculé qui donna à Susanna envie de sourire. Le genre de chapeau que le gentil porterait dans un vieux western en noir et blanc. Pourtant, elle se dit qu'un couvre-chef de ce genre devait valoir une petite fortune et elle en déduisit que le type de sous devait être Wayne Overholser, le gros fermier, comme l'avait appelé Roland, celui qu'il fallait convaincre, selon Callahan. « Pas nous !» se dit Susanna avec un certain soulagement. La bouche fine, les yeux perspicaces et surtout ses rides profondes, il en avait une autre qui lui barrait verticalement le front, juste au-dessus des yeux. Tout suggérait que Cy Overholser se révélerait une vraie calamité à convaincre. Et derrière ces deux-là, plus exactement derrière le plus jeune, s'avança une grande femme. Pas vraiment noir, mais au teint au moins aussi brun que celui de Suzanne. Et fermant la marche, un homme à lunettes, à l'air sérieux et à la tenue de fermier, accompagné d'un garçon qui ne devait pas avoir plus de 2 ou 3 ans de plus que Jake. Ces deux-là se ressemblaient comme 2 gouttes d'eau. Il s'agissait forcément de Slightman, l'aîné, et de Slightman, le jeune. Le garçon est peut-être plus âgé que Jake, mais... « Il m'a l'air bien tendre, » se dit Susanna. C'était vrai, mais ce n'était pas forcément un inconvénient. Jake en avait vu beaucoup trop pour un garçon de son âge. Il en avait fait beaucoup trop aussi. Overholser jeta un œil à leurs armes. Roland et Eddie portaient chacun des gros revolvers à crosse de bois de santal. Le 44 Ruger en provenance de New York était accroché sous l'aisselle de Jake, avec ce que Roland appelait un crampon de débardeur. Puis son regard se posa sur Roland. Il salua de manière indifférente, passant brièvement son poing demi-serré pas très loin de son front. Il ne s'inclina pas. Si Roland en fut offensé, son visage n'en trahit rien. Son visage n'exprimait rien d'autre qu'un intérêt poli. Hyle et Pistolet au fil homme qui marchait aux côtés d'Overholser, et lui mit un genou en terre, la tête inclinée et le front reposant sur le poing. « Je suis Jan Jaffords, fils de Luke. Cette dame est ma femme, Zalia. Allez, appelez-moi Roland, si ça vous convient. Que vos jours soient longs sur cette terre, Cy Jaffords. Tian, s'il vous plaît. Et le double du compte pour vous et vos amis. Je m'appelle Overholser. » L'interrompit brusquement l'homme en Stetson blanc. C'est sur la requête de Callahan et du jeune Jaffords que nous sommes venus vous trouver, vous et vos amis. J'abrégerai les cérémonies pour en venir le plus vite possible au fait, sans offense, je vous prie. Mille excuses, mais ce n'est pas ainsi que se sont faites les choses, dit Jaffords. Nous avons tenu conseil entre hommes de la Cala et nous avons voté. Overholser l'interrompit de nouveau. C'était visiblement son genre. Susanna doutait même qu'il s'en rendit compte. « La ville, oui. La Cala. Je suis venu dans le désir de faire ce qu'il faut pour la ville et pour mes voisins, mais c'est une période chargée pour moi, la plus chargée même. « Chariotry, » dit Roland doucement. Et Susanna avait beau connaître un sens plus profond à cette expression, un sens qui lui donnait la chair de poule, elle vit les yeux d'Overholser s'éclairer. Et pour la première fois, elle eut une petite idée de ce qu'allait donner cette journée. La moisson, oui, monsieur. Grand merci à vous. Un peu à l'écart, Callahan regardait vers les bois avec un air de patience étudiée. Derrière Overholser, Tian Jafotz et sa femme échangèrent un regard embarrassé. Les Slightman se contentèrent d'attendre en observant. Jusqu'à là, vous comprenez, au moins. À Gilead, nous étions entourés de champs et de métairies, dit Rolland. J'ai eu mon compte de foin et de maïs à mettre à la grange. Si fait, et de vivraves aussi. Overholser adressa à Rolland un sourire que Susanna trouva légèrement déplaisant. Un sourire qui disait « On sait tous les deux ce qu'il y a derrière, pas vrai, Sai. Après tout, nous sommes tous deux des hommes d'expérience. » « D'où venez-vous réellement, Sai Rolland ?»«
Mon ami, il faut que vous consultiez un audiologue, » fit Eddie.
Overholser lui lança un regard perplexe.
« Quis-je, pardon ?»
Eddie fit un geste qui disait « Ah, vous voyez ?» et hocha la tête. « C'est bien ce que je disais. Du calme, Eddie, » dit Rolland, toujours doux comme le miel. « Sai Overholser, il nous faudra peut-être du temps pour échanger nos noms et exprimer des souhaits de politesse aussi, car c'est ainsi que se comportent les gens civilisés et amicaux, n'est-ce pas ?» Rolland marqua une pause, juste un instant, pour souligner ses propos. Puis il reprit « C'est sans doute différent avec les écumeurs, mais je ne vois aucun écumeur ici. » Overholser serra les lèvres et lança un regard dur à Rolland, tout prêt qu'il était à s'offenser. Mais il ne trouva aucune prise dans l'expression du pistolero et se détendit. « Grand merci, » fit-il. « Voici Tian et Zalia Jaffords qui se sont présentés. » Zalia fit la révérence, séparant des jupes invisibles de chaque côté de sa culotte de velours usée. Et voici Ben Slightman l'aîné et Benny le jeune. Le père leva le poing, le porta à son front et hocha la tête. Quant au fils, visiblement au comble de l'effroi, principalement du fait des armes, supposa Susanna, il s'inclina, la jambe droite tendue devant lui, le talon planté dans le sol.
Vous connaissez déjà le vieux, acheva Overholser d'un ton de condescendance désinvolte dont lui-même se serait offusqué s'il avait été adressé à son illustre personne.
Susanna pensa que lorsqu'on était un gros fermier, on prenait l'habitude de parler exactement comme on en avait envie. Elle se demanda jusqu'où il pousserait Rolland avant de se rendre compte qu'il ne l'avait pas ébranlé du tout. Parce qu'il y avait des hommes qu'on n'ébranlait pas. Il vous accompagnait un moment, puis...
« Voici mes compagnons de voyage, » dit Rolland.
« Eddie Dean et Jake Chambers de New York. Et voici Susanna. » Il fit un geste dans sa direction sans se tourner vers elle. Overholser prit un air averti et intensément viril que Susanna avait déjà vu auparavant. Detta Walker avait une façon imparable de balayer cette expression du visage d'un homme, une façon dont elle se dit qu'elle ne plairait pas du tout à Sai Overholser. Néanmoins, elle adressa à Overholser et à ses compagnons un petit sourire sage et fit à son tour une révérence avec ses jupes invisibles. Elle considérait la sienne comme aussi gracieuse que celle d'Zalia Jaffords, mais bien sûr, une révérence n'avait pas la même allure quand il vous manquait les mollets et les pieds. Les nouveaux arrivants avaient remarqué cette anomalie, bien entendu, mais elle se moquait pas mal de ce qu'ils pouvaient en penser. En revanche, elle se demandait ce qu'il pensait de son fauteuil roulant, celui qu'Eddie lui avait dégoté à Topeka, où Blaine le Mono avait fini sa course. Ces gens ne devaient jamais avoir vu une chose pareille.
« Callahan, peut-être, » se dit-elle.
« Parce que Callahan est de notre côté, » le garçon dit.
« C'est un bafouilleux.
Tais-toi, veux-tu ?»
fit Slightman, paraissant presque choqué que son fils ait osé ouvrir la bouche.
« Pas de problème, » dit Jake. « Oui, oui, c'est un bafouilleux. »«
Ôtez, va le voir. »
Il désigna Ben le jeune du doigt. Ôtez contourna le feu de camp en trottinant et alla se planter au pied du nouvel arrivant, vers lequel il leva ses yeux cerclés d'or.
« Je n'en avais jamais vu de domestique, » dit Tian. « J'en avais entendu parler, bien sûr, mais le monde a changé. »«
Peut-être tout n'a-t-il pas changé, » dit Rolland.
Il jeta un regard à Overholser. «
Peut-être certaines anciennes coutumes ont-elles encore cours.
Je peux le caresser ? Demanda le garçon à Jake.
Il ne mord pas ?
Oui, tu peux. Et non, il ne mord pas.
Ben le jeune s'accroupit devant Otey, et Susanna se prit à espérer que Jake ne s'était pas trompé. Un bafouilleux arrachant le nez à ce gamin ne serait pas du meilleur goût dans ces circonstances. Mais Otey supporta la caresse, alors même jusqu'à étendre son long cou pour renifler l'odeur du visage de Slightman. Le garçon éclata de rire.
« Comment tu dis qu'il s'appelle ?»
Avant que Jake ait pu répondre, le bafouilleux prit les devants. « Otey !» Tout le monde se mit à rire. Aussi simplement qu'ils s'étaient tous retrouvés là par une heureuse rencontre sur cette route qui longeait le sentier du rayon. Le lien était fragile, mais même Overholser le sentait. Et lorsqu'il éclata de rire, le gros fermier avait presque l'air d'un type bien. Apeuré peut-être, imbu de lui-même, sans aucun doute, mais il y avait quelque chose. Susanna ne savait pas si elle devait s'en réjouir ou s'en effrayer. 4.
« Je voudrais vous parler, si vous permettez, » dit Overholser.
Les deux garçons s'étaient éloignés. Otey marchant entre eux, et Slightman le jeune demandait à Jake si le bafouilleux savait compter, car il avait entendu dire que certains y arrivaient.
« Je ne crois pas, Wayne, » répondit immédiatement Jaffords. « Il était convenu qu'on retournerait au camp, qu'on romprait le pain et qu'on expliquerait à ces gens de quoi on a besoin. Et alors, s'ils étaient d'accord pour aller plus loin, je ne vois pas d'objection au fait d'échanger quelques mots avec Cy Overholser, » dit Rowland.
« Et vous non plus, Cy Jaffords, je pense. Car cet homme n'est-il pas votre digne ?» Puis, sans laisser à Jaffords le temps de répondre ou de protester,
« Sers du thé à ces gens, Susanna. » Et dis, viens par ici une seconde si ça te sied. »
Cette expression, inconnue à leurs oreilles, sortit de la bouche de Rowland avec un naturel parfait. Susanna s'en émerveilla. Si elle avait tenté une saillie pareille, elle aurait eu l'air de leur lécher les bottes.
« Nous avons de la nourriture plus au sud, » dit Zalia d'une voix timide. « De la nourriture, du graff et du café. » « Andy, nous mangerons avec plaisir et boirons votre café avec joie, » répondit Rowland. « Mais prenez d'abord un thé, je vous prie. Nous n'en avons que pour quelques minutes, n'est-ce pas, Cy ?»
Overholser acquiesça. Son air sévère et gêné avait disparu, ainsi que la raideur de sa posture. De l'autre côté de la route, près de l'endroit où une femme du nom de Mia avait plongé dans les bois la nuit précédente, les garçons éclatèrent d'un rire surpris pour Benny et plein de fierté pour Jake, à leur côté, se livrait à une de ses facéties. Rowland entraîna Overholser par le bras et ils remontèrent la route. Eddie s'éloigna avec eux. Les sourcils froncés, Jaffords fit mine de les suivre quand même. Susanna lui effleura l'épaule.
Il sait ce qu'il fait.
Jaffords tourna vers elle son air dubitatif, puis il la suivit.
« Je pourrais peut-être vous refaire un peu de feu, Cy ?» proposa Slightman l'aîné, avec un regard gentil vers ses jambes amputées. « Car je vois qu'il reste des étincelles, ça oui. »«
Avec plaisir, » répondit Susanna en se disant que tout ça était merveilleux. Merveilleux et étrange. Potentiellement fatal aussi, bien sûr. Mais elle avait fini par apprendre que ça avait aussi son charme. C'était la virtualité des ténèbres qui rendait la lumière du jour tellement éclatante. 5. Ayant remonté la route sur environ 10 mètres, les trois hommes s'étaient immobilisés. Overholser semblait monopoliser la parole, agitant parfois violemment les bras pour appuyer ses propos. Il parlait à Rowland comme si ce dernier n'était qu'un clochard qui se serait retrouvé à dériver sur cette route avec quelques amis sans importance, traînant la patte derrière lui. Il expliqua à Rowland que John Jaffords était un idiot, quoique bien intentionné, qui ne comprenait rien à la réalité de la vie. Il dit aussi qu'il fallait réfréner Jaffords, calmer sa fougue, non seulement dans son propre intérêt, mais dans celui de la Cala tout entière. Il insista sur le fait que ce qui, quoi que ce soit, pouvait être fait, lui, Wayne Overholser, fils d'Alan, serait le premier à se mobiliser. Jamais de toute sa vie il n'avait reculé devant l'effort. Mais
S'attaquer au loup, c'était de la folie pure. Et, ajouta-t-il en baissant la voix, en parlant de folie, il y avait aussi le cas du vieux. Tant qu'il restait le nez dans son église et dans ses rituels, c'était parfait. Dans ces affaires-là, un peu de folie mettait du piment. Mais là, c'était différent. Si fait, très différent. Roland l'écouta sans l'interrompre, hochant la tête de temps à autre. Lorsque Oberholzer eut enfin fini, le gros fermier de la Cala se contenta de fixer, avec une sorte de fascination figée, l'homme en armes qui se tenait en face de lui, surtout ses yeux d'un bleu délavé. « Vous êtes bien ce que vous dites ? » finit-il par demander. « Dites la vérité, Sai. » « Je suis Roland de Gilead, » répondit le pistolero. De la lignée d'Eld, c'est ce que vous dites? Par ma montre et mon billet. Mais Gilead, Oberholzer marqua une pause, Gilead a disparu depuis longtemps. Mais moi, non, fit Roland. Est-ce que vous voulez tous nous tuer ou nous faire tuer? Parlez, je vous prie. Que souhaitez-vous, sighed Oberholzer? Pas plus tard, pas dans un jour, une semaine ou une lune, mais en cette minute même. » Oberholzer resta debout, là, un bon moment, son regard passant tour à tour de Roland à Heidi. Il n'était pas homme à changer d'avis facilement, et lorsqu'il le faisait, c'était pour lui aussi douloureux qu'une hernie. Plus bas, au bord de la route, monta le rire des garçons, tandis que Otter apportait à Benny quelque chose qu'il lui avait lancé, un bâton presque aussi gros que le bafouilleux lui-même. « Je souhaite vous écouter, » dit finalement Oberholzer. « Je peux bien faire ça, plaise aux dieux, et grand merci à vous. » Et il a expliqué dans d'autres termes pourquoi toute cette histoire était complètement insensée, rapporta Heidi plus tard. Puis il a fait exactement ce que Roland attendait de lui. On aurait dit de la magie. « Parfois, avec Roland, c'est de la magie, » répondit-elle. 6. La troupe de la Cala avait établi son campement dans une charmante clairière au sommet d'une colline, quelque peu au sud de la route, juste à l'écart du sentier du rayon, de sorte que les nuages demeuraient immobiles dans le ciel, paraissant à portée de main. Ils avaient clairement balisé le chemin du campement à la route. Certaines marques au feu étaient aussi grosses que la main de Suzanne. Ces gens-là étaient peut-être des fermiers hors pair, mais les bois les mettaient visiblement mal à l'aise. « Puis-je vous relayer avec cette chaise, jeune homme ?» demanda Oberholzer à Heidi, tandis qu'ils abordaient la dernière montée. Susanna sentit l'odeur de viande grillée et se demanda qui pouvait bien s'occuper de la cuisine si toute la troupe Callahan-Oberholzer était venue à leur rencontre. La femme n'avait-elle pas mentionné quelqu'un du nom d'Andy? Un serviteur, peut-être? Celui d'Oberholzer? À voir. Un homme qui avait les moyens de s'offrir un Stetson aussi magnifique que celui qu'il arborait en ce moment même pouvait sans doute avoir un valet. Comme cela vous siera, fit Heidi. Il avait failli ajouter, je vous prie, mais ça sonne toujours bidon pour lui, pensa Susanna. Mais il s'écarta simplement du fauteuil et en céda les poignets à Oberholzer. Le fermier était un homme carré, et c'était pente douce, et il se retrouvait à pousser une femme qui devait avoisiner les 65 kilos, mais son souffle, quoique lourd, demeura régulier. « Puis-je vous poser une question, Sai Oberholzer ?» demanda Heidi. « Bien sûr. Quel est votre deuxième prénom ?» Le mouvement du fauteuil se ralentit momentanément. Susanna mit cela sur le compte de la surprise. « Eh bien, voilà une question, jeune homme. Pourquoi voulez-vous savoir ?»« Oh, c'est ma passion, les prénoms, » répliqua Heidi. « En fait, je prédis l'avenir avec les prénoms. »« Prudence, Heidi, prudence, » pensa Susanna, amusée malgré elle. « Ah oui, si fait ?»« Oui, » fit Heidi. « Vous, par exemple. Je suis sûr que votre deuxième prénom commence par un... » Il fit semblant de calculer. « Un dé. » Sauf qu'il le prononça « dé »,
comme on prononce les grandes lettres en haut parlé. Et je le vois court. 5 lettres, peut-être même 4. À nouveau, léger ralentissement dans le mouvement du fauteuil.
« Par le diable !» s'exclama Oberholzer. « Comment le savez-vous? Dites-le-moi »
Eddie haussa les épaules. « Rien d'autre qu'un peu de calcul et d'intuition, en fait. Pour tout vous dire, je me trompe une fois sur deux. »«
Plus que ça !» fit Suzanne.
« Je vais vous dire mon deuxième prénom. C'est Dale. Si on m'a dit pourquoi un jour, ça m'a échappé. J'ai perdu mes parents très jeune. »
« Condoléances, » dit Susanna, soulagée de voir Eddie s'éloigner, sans doute pour annoncer à Jack qu'elle ne s'était pas trompée.
« Wayne Dale Overholzer, 19, pile. »
« Ce jeune homme, il est gâche ou c'est un idiot ?» demanda Overholzer à Susanna.
« Dites-le-moi, je vous prie, car je n'arrive pas à trancher. »«
Un peu des deux. » »«
En tout cas, pour cette poussette, aucun doute, c'est du gâche, non ?»
Aussi gâche qu'une boussole.
Grand merci à vous, dit-elle. Puis elle poussa un petit soupir de soulagement intérieur. Ça sonnait bien, probablement parce qu'elle ne l'avait pas vraiment calculé.
Où l'avez-vous trouvé?
Sur notre chemin, assez loin d'ici. Le tour que prenait la conversation ne l'emballait pas vraiment. Elle estimait que c'était du ressort de Roland de raconter leur histoire, ou de ne pas la raconter. C'était lui, leur Dean. De plus, on ne pouvait contredire ce qui n'était raconté que par un seul. Pourtant, elle estima qu'elle pouvait en dire un peu plus.
« Il y a une tramée. Nous venons de l'autre côté où les choses sont très différentes. »
Elle se contorsionna pour le regarder. Le cou et les joues d'Overholzer avaient rougi, mais elle se dit que vraiment il s'en tirait très bien pour un homme bien avancé dans la cinquantaine.
« Vous voyez de quoi je veux parler ?»«
Ouais, là » fit-il avant de se racler la gorge et de cracher sur sa gauche. « Non pas que je l'ai vu ou que j'en ai entendu parler moi-même, vous comprenez? Je ne suis jamais allé me balader très loin, trop à faire à la ferme. De toute façon, à la Calard, on n'est pas du genre à aller dans les bois, vous intuitez ?»«
Oh, que oui, je l'intuite, » pensa Susanna, apercevant du coin de l'œil une autre marque brûlée de la taille d'une assiette.
Le malheureux arbre ainsi marqué avait peu de chance de passer le prochain hiver.
Andy nous a parlé de la tramée, maintes et maintes. Il dit que ça fait un bruit, mais incapable de dire quel bruit.
Qui est-ce, Andy?
Vous le rencontrerez vous-même bien assez tôt, Sai. Vous aussi, vous venez de ce Cala York comme vos amis?
Oui, fit-elle à nouveau sur ses gardes. Il fit pivoter le fauteuil pour éviter un vieil arbre de fer recouvert de duvet blanc. Les arbres étaient plus clairsemés à présent, et l'odeur de cuisine beaucoup plus prononcée. De la viande et du café. Son estomac se mit à gargouiller.
« Et eux, ce ne sont pas les pistoleros ?» fit Overholzer.
« Vous n'allez pas me dire que si. »
« Ce sera à vous de décider par vous-même leur venue. »
Il resta silencieux quelques instants. Le fauteuil ripa sur un rocher qui affleurait. Devant eux, hottait trottinait entre Jake et Benny Slightman, qui étaient devenus amis avec cette promptitude effrayante typique des jeunes garçons. Elle se demanda si c'était une bonne idée, car ces deux garçons étaient différents. Le temps leur montrerait sans doute à quel point, et pour leur plus grand chagrin.
Il m'a fait peur, reprit Overholzer d'une voix si basse qu'elle était à peine audible, comme s'il se parlait à lui-même. C'était ses yeux, je pense. Surtout ses yeux.
Mais vous voudriez continuer comme avant? Demanda Susanna. Elle aurait certes voulu y mettre beaucoup plus de désinvolture, mais la fureur avec laquelle il y répondit la fit toutefois sursauter.
Vous êtes folle, femme! Bien sûr que non! Pas si je trouvais un moyen de nous en sortir. Écoutez-moi bien. Ce garçon, il désigna Tian Jaffords qui marchait devant eux avec sa femme, ce garçon m'a carrément accusé de m'en courir. Il s'est assuré que tout le monde comprenait que je n'avais pas d'enfant en âge d'intéresser les loups. Contrairement à lui. Vous a tuté? Ben qu'est-ce qu'il croit? que je suis un imbécile incapable de faire un bilan ?»«
Moi pas, » fit Susanna d'une voix calme.
« Mais lui, ça m'étonnerait pas !»
Oberholzer s'exprimait comme un homme sous le crâne duquel l'orgueil le disputait à la peur.
« Est-ce que je veux donner des babets aux loups, des babets qu'ils nous renvoient crânés, qui ne sont plus que des boulets pour la ville ?»« Non, mais je ne veux pas non plus qu'un mercenaire nous embarque dans une catastrophe avec aucune issue de secours. »
Elle le regarda par-dessus son épaule et constata une chose fascinante. Maintenant, il voulait dire oui. Il voulait trouver une raison de dire oui. Voilà jusqu'où l'avait mené Rolland, quasiment sans prononcer un mot, par la seule force de son regard. Du coin de l'œil, elle aperçut du mouvement.
« D'où Jésus ?» s'exclama Eddy.
Instinctivement, la main de Susanna se précipita sur une arme qu'elle n'avait pas. Elle se retourna et reprit sa position initiale dans le fauteuil. Face à eux, descendant la pente avec des précautions presque efféminées que jusque dans son ébahissement elle ne put s'empêcher de trouver amusantes, s'avançait un homme de métal d'au moins 2 mètres de haut. La main de Jake s'était portée au crampon de débardeur sur la crosse du pistolet suspendu là. « Tout doux, Jake, » le mit en garde Rolland. Ses yeux lançant des éclairs bleus, l'homme de métal s'immobilisa devant eux. Il se tint là parfaitement impassible pendant environ 10 secondes, ce qui suffit largement à Susanna pour déchiffrer l'inscription sur son torse. « North Central Positronics », se dit-elle, « on est bon pour un rappel. » Sans parler des industries Lamerck. Puis le robot leva un bras argenté, portant sa main argentée à son front d'acier.
« Allez, pistolero, venu de si loin, que vos journées soient longues et vos nuits plaisantes.
Rolland porta les doigts à son front.
Et le double du compte pour vous, Andy Sy.
Grand merci. Ses entrailles profondes et mystérieuses se mirent à cliqueter. Puis il se pencha vers Rolland, ses yeux bleus lançant des éclairs plus vifs encore. Susanna vit la main d'Eddie ramper jusqu'à la crosse de bois de santal du vieux revolver qu'il portait. Rolland, en revanche, ne scia pas.
« J'ai préparé un bon repas, pistolero, plein de bonnes choses données en abondance par notre terre, si fait. »«
Grand merci à vous, Andy.
J'espère que cela vous siéra. »
Les entrailles du robot cliquetèrent de nouveau.
« En attendant, que diriez-vous d'entendre votre horoscope ?»